Nous retrouvons Monique Brumont-Cassin pour ses chroniques Montesquieu. Aujourd'hui, Monique, vous allez nous parler de Montesquieu, magistrat et baron de Montesquieu. Bonjour Monique.
Bonjour.
Alors, racontez-nous la suite de cette aventure.
Eh bien, maintenant, l'oncle exige qu'il se marie.
Ah.
Notre jeune baron semble avoir un penchant pour la fille d'un riche bourgeois, commerçant et jurat. Germaine Denis. Et il se fiance avec elle en février 1715, avec contrat chez un notaire. Le contrat est donc signé, il prévoit une dot de 75 000 livres, ce qui est une somme importante. Mais la ville, les milieux parlementaires, tout ce joli monde jase, se moque, s'étonne. Comment une fille de si petite condition, même riche ? Tonton Jean-Baptiste a dû furieusement sermonner son filleul, et hop, un mois plus tard, apparaît Jeanne de l'Artigue, entre guillemets la particule, avec contrat signé le 22 mars. Gain espéré, 100 000 livres. Faisons connaissance avec la future épouse.
Alors.
Donc cette particule a été achetée il y a 11 ans. Le père est un ancien colonel de les armées de Louis XIV. Il a des revenus du négoce et la mère de riches terres tout près d'Agen, sans oublier une jolie chartreuse juste construite à 5 minutes de la Brède. Par contre, sa famille est de religion protestante. Mais par précaution, Jeanne a été baptisée à sa naissance lorsque Louis XIV s'est remis à persécuter les non-catholiques. Et donc, fille unique, elle a le même âge que lui, 26 ans, pas vraiment une beauté, alors que lui est un élégant blond aux yeux bleus. Élevée de façon austère, elle restera fidèle à sa foi toute sa vie, avec l'accord de son mari. Un peu plus tard, il sera fort contrarié à l'égard de ses beaux-parents, car figurez-vous que la dot était en grande partie constituée de créances jamais honorées. La demoiselle Deschartrons était sûrement plus solvable. Le mariage du baron de la Brède, c'est du jamais vu. La cérémonie a lieu en l'église Saint-Michel à Bordeaux, le 30 avril 1715, en la seule présence des époux et de deux témoins pris au hasard, l'un colonel, l'autre tailleur. Jean-Baptiste n'est pas là, ni les parents de Jeanne. N'oublions pas que sa foi réformée est connue de tout Bordeaux. Même si les ancêtres paternels Seconda étaient protestants eux aussi, jusqu'à la conversion du roi Henri IV qui les avait fait barons de Montesquieu. Charles-Louis a respecté sa femme et pour son époque lui a accordé confiance et estime. Il lui a très souvent délégué signature pour la gestion des biens lors de ses si fréquentes et longues absences, car Jeanne était relativement bien instruite. Deux enfants naissent aussitôt. Un fils, Jean-Baptiste, évidemment, en février 1716, puis Marie, en mai 1717. Jeanne mourra à Bordeaux 15 ans après son époux, âgée de 81 ans, en 1770. Elle sera enterrée, selon sa volonté, respectée par des amis protestants de confiance, avec, je cite, « un vrai faux passeport d'étrangère » dans le récent cimetière protestant de la ville et certainement sans la présence de ses enfants, mais ceci est une toute autre histoire. Le grand chamboulement dans sa vie se produit le 24 avril 1716. Son oncle meurt, il hérite de tout. De la baronnie, possédée par ses ancêtres à Montesquieu, près d'Agen, avec ses nombreuses métairies et toutes les richesses autour de ça, mais encore de la maison noble et des domaines en Entre-deux-Mers, la demeure de son grand-père Gaston, et donc aussi de la charge de président à Mortier au Parlement de Guyenne. C'est à partir de ce moment qu'il va signer Montesquieu, ainsi qu'il l'a promis à son parrain, et que ses amis français et étrangers l'appelleront président toute sa vie. Et pourtant, il est si peu assidu qu'il est souvent rappelé à l'ordre, car une fois qu'il aura réglé et organisé la mise en valeur de ses biens, très éloignés les uns des autres, il va commencer dès 1719 à filer à Paris dès que possible. Et vous verrez, en 1721, il va se produire un événement phénoménal. Il étouffe. Bien qu'il ait le titre de président à Mortier, la règle de l'âge ne lui permet pas d'exercer la fonction, car il est trop jeune. Et il n'en tire toujours aucun revenu, tout en étant retenu à Bordeaux. En 26, un de ses meilleurs amis lui trouve donc un riche acquéreur pour sa charge. Il récupère une grosse somme qu'il investira à bon escient dans des achats de terres, de moulins et de bois, et à 37 ans, il tire sa révérence à ce milieu et à des obligations qu'il n'avait pas choisies.
Merci beaucoup Monique, c'est absolument passionnant cette vie de Montesquieu. Et demain, vous nous parlerez de l'histoire périgourdine de son vignoble. Merci Monique, à demain.